19. Comme ça, vous pouvez voir si c'est, je raconte des bêtises ou pas. Vous pouvez suivre aussi sur l'écran derrière moi. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Robbie. Je suis un des anciens dans cette église. Bienvenue à tout le monde. Notre pratique dans l'église, c'est de prendre un passage de la Bible et l'expliquer, de voir ce que Dieu nous dit à travers la Bible, parce qu'on parle que Dieu, on croit que Dieu nous parle encore aujourd'hui, et il nous parle à travers la Bible. Donc nous ouvrons la parole, nous lisons, et nous voyons ce que cela veut dire pour nous. Et nous avons besoin de l'aide de Dieu pour la comprendre. Donc la première chose que je vais faire, c'est prier. Donc prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite. Ça, c'est notre prière ce matin. Notre Père, toi qui règnes dans les cieux, toi le Tout-Puissant, le Souverain, règne dans nos cœurs maintenant. Parle puissamment par ta parole, que nous ayons des oreilles pour entendre, et que tu nous changes, tu nous transformes, que tu nous amènes à te connaître ce matin, au nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont tolérées dans la société, n'est-ce pas? Presque tout. Il n'y a pas vraiment de tabou maintenant. L'adultère est devenu banal. La violence, si vous regardez les jeux vidéo censés être pour enfants, c'est dramatique ce qu'on peut y voir. Tout est permis dans notre société, sauf le fait de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas permises. Ça, on ne peut pas le dire. Et le danger pour les chrétiens qui habitent dans la société, nous devons habiter dans la société, nous voulons côtoyer les gens, le danger, c'est que nous, on commence à penser comme ça. On pense que, voilà, tout le monde le fait. Tous mes amis le font. Tous mes collègues sont comme ça. Et petit à petit, on commence à refléter les valeurs de la société au lieu de refléter les valeurs de Dieu qui nous laisse dans sa parole. Et Jacques, il a une mission dans sa lettre, de dire on ne peut pas vivre dans la société comme tous les autres. Il ne veut pas qu'on soit dans un monastère, entre nous, en train de vivre dans une petite communauté sainte. Non, ce n'est pas ça. On veut qu'on vive dans le monde, mais pas comme le monde. Et ne pas faire le grand écart, on a déjà parlé de ça. Ne pas essayer de vivre un peu pour le monde et un peu pour Dieu. Et donc, nous arrivons à la conclusion. Aujourd'hui, nous voyons ça au verset 12. Il dit « Avant toute chose, mes frères ». On voit qu'il arrive à la fin de sa lettre et il va aborder trois sujets pour nous à la fin de sa lettre. La première chose qu'il dit, là où on doit être différent du monde, c'est dans nos paroles. Dans nos paroles. Il dit, soyons intègres dans nos paroles. Verset 12. Soyons intègres dans nos paroles. Jacques a déjà beaucoup parlé de l'intégrité dans le livre, n'est-ce pas? Il a dit, on ne peut pas dire une chose et faire une autre. On ne peut pas prétendre avoir la foi si on n'a pas les œuvres. Il a beaucoup parlé de la langue aussi, n'est-ce pas? Il faut brider sa langue, comme on a vu. Mais ici, il met les deux choses ensemble, l'intégrité et la parole. Lisons le verset 12 de nouveau. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ici? Il ne faut pas jurer ou faire serment, que ce soit par le ciel, par la terre ou aucun autre serment. Que faut-il faire au contraire? C'est que notre oui soit oui, notre non soit non. Donc il s'agit d'une interdiction de prononcer des serments pour promettre à quelqu'un que nous allons faire quelque chose. Est-ce que vous avez dit des choses pareilles? Cette fois-ci, je te jure, je vais le faire. Je vous avais dit ça? Je te le promets, je vais le faire. Jacques dit que notre oui doit suffire. Pourquoi est-ce qu'on ajoute d'autres choses lorsqu'on dit cela? C'est parce qu'on pense que les autres ne vont pas nous croire si on dit simplement oui. Et pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas nous croire? Peut-être parce qu'on n'est pas fiable. Peut-être notre oui n'est pas toujours oui. Prenons juste trois exemples de ce que cela pourrait vouloir dire. Quelqu'un nous demande de servir d'une manière ou d'une autre à l'église. Il y a tout plein de moyens de servir à l'église, n'est-ce pas? Faire la vaisselle, enseigner, assister à l'école dimanche, aider avec les tout-petits à l'étage, distribuer, préparer la scène, accueillir les gens à l'entrée, chanter, jouer un instrument. Mais si nous avons dit oui à la personne qui organise la chose pour une certaine date, Jacques veut qu'on prenne cet engagement au sérieux. Cela arrive trop souvent, malheureusement, que nous arrivons le dimanche matin et constatons que celui qui devait accomplir tâche X ou Y ne l'a pas fait. Ou on n'a personne pour garder les enfants à l'étage, car les personnes désignées ne sont pas venues, ils n'ont pas prévenu de leur absence. Jacques dit que notre oui soit oui et notre non soit non. Pas besoin de faire toute une histoire en disant « Je serai certainement là cette fois-ci, je te le promets. » Les gens doivent nous croire si on dit oui. Et bien sûr, il y aura des imprévus de temps en temps qui font que c'est impossible de venir un dimanche en question. Mais je pense que ces cas sont plus rares que l'on pense. Si nous sommes alités à cause de la maladie, bien sûr, on ne peut pas venir. Mais pense à envoyer un message à celui qui organise le service, aussitôt que possible pour le prévenir. S'il y a un accident grave sur l'autoroute, il y a des fils sur des kilomètres, ok, ça dépend pas de vous. Mais la fatigue le dimanche matin, si je peux oser le dire, n'est pas une excuse valable pour revenir sur sa parole. Nous sommes tous fatigués. Il ne faut pas croire que ceux qui viennent à l'église ne sont pas fatigués. Il s'agit de surmonter la fatigue. Que notre oui soit oui dans notre service à l'église. Deuxième exemple, dans la famille. Est-ce que vous avez vu des films avec un couple en difficulté? Ça, je pense que c'est presque dans tous les films que j'ai regardés. Il y a toujours une scène qui se passe ainsi. Le papa travaille trop, il n'est jamais là pour sa famille. C'est l'anniversaire d'un de ses enfants. Le père promet qu'il sera cette fois-ci de retour. Cette fois-ci, j'y serai, je te le promets, je serai là à ton anniversaire. Et qu'est-ce qui se passe? La fête commence, l'enfant regarde, où est papa? Et maman dit, il va venir, il te l'a promis. Et finalement, la fête se termine, les autres enfants rentrent chez eux, et l'enfant va au lit en sanglots. Papa rentre et trouve son épouse en train de faire la vaisselle, toute triste. Je pense que moi, j'ai tout plein de films comme ça. Mais Jacques dit, ceci n'est pas acceptable pour un chrétien. Que ce soit de la part du papa ou de la maman, il faut que nous tenions parole à la maison. Si nous disons que nous serons de retour à 19h, faisons tout notre possible pour y être. C'est très pénible pour les enfants, pour le conjoint qui ne peuvent pas faire confiance à la parole de l'autre parent. Que notre oui soit oui. Dernier exemple, au boulot. Si nous travaillons avec d'autres, et si nous sommes chrétiens, nous devrions être connus pour notre intégrité. Si nous disons que nous allons nous charger d'un projet, il faut le faire. Il ne faut pas le laisser traîner. Si notre patron nous demande de faire quelque chose, nous devons le faire. Nous devrions être connus pour les gens qui tiennent parole. Même s'il n'y a pas d'accord écrit, signé, légal, notre oui doit suffire. Jacques veut que cela soit aussi fiable, notre parole, qu'un document écrit et signé. Soyons intègres dans nos paroles. Le prochain domaine que Jacques aborde, c'est nos paroles de nouveau, mais pas nos paroles prononcées à l'intention des autres, mais plutôt à l'intention de Dieu. Il va parler maintenant de la prière, dans les versets 13 à 18, il dit « Soyons prêts à prier. » Soyons prêts à prier. Parfois, lorsqu'on veut savoir de quoi un auteur parle dans la Bible, il suffit de voir les mots qu'il dit à plusieurs reprises. Je pense que si on fait le calcul ici, il dit « prière » ou « prier » 7 fois dans 6 versets. Je pense qu'on peut dire que Jacques veut nous parler de la prière. Et au verset 13, il nous dit « En toutes circonstances, on doit prier. » Lisons le verset 13. « Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. » Le réflexe de base du chrétien doit être la prière. Pour nous chrétiens, notre réflexe doit être de parler à notre Père dans la prière. Il y aura beaucoup, beaucoup de gens ici qui sont en train de souffrir d'une manière ou d'une autre, peut-être de manière cachée, les autres ne savent pas. Comment est-ce qu'on va réagir? Jacques nous demande de prier, de prier. Vous avez perdu un proche, priez. Vous souffrez de la dépression, priez. Vos enfants ne sont pas croyants, priez. Vous n'avez pas de boulot pour l'instant, priez. Mais d'autres ici seront dans la joie, seront joyeux. Et qu'est-ce que nous, on doit faire, verset 13, si c'est le cas pour vous? Chanter des cantiques. Ça ne veut pas forcément dire chercher les ailes de la foi, un recueil de chants et voilà, chanter ça, mais on pourrait reprendre les paroles que l'on connaît, que l'on chante à l'église. Ce serait une très bonne chose de chanter lorsqu'on est dans la joie devant le Seigneur. Est-ce que cela vous arrive d'entendre les cantiques à la maison, les chants pour exprimer votre reconnaissance à Dieu? Même si on chante fausse, c'est très bien de chanter à Dieu. En toutes circonstances, prier, verset 13. Mais aussi lorsqu'on est malade, prier. Ça, c'est la prochaine chose qu'il dit, verset 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en oignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il faut dire que ces versets ne sont pas hyper faciles à interpréter. J'ai lutté avec ces versets cette semaine. Et donc, nous allons nous poser quelques questions pour nous aider à les comprendre. Premièrement, qui est le malade ici? Qui est le malade? Je ne pense pas que Jacques parle de quelqu'un qui est enrhumé, qui a le nez qui coule. Je ne pense pas que c'est ça, parce que la personne doit appeler les anciens. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller voir les anciens. Il doit faire appel aux anciens de venir chez lui. Donc, ce n'est pas quelqu'un avec qui est enrhumé, mais c'est quelqu'un qui est gravement affaibli par la maladie, peut-être même alité. Ensuite, que doit faire le malade? Le verset dit qu'il doit appeler les anciens, c'est-à-dire les responsables de l'église locale. La personne doit demander aux anciens de venir le voir pour prier pour lui. Et notons en passant que l'idée des cultes des guérisons n'est nullement enseignée dans la Bible. Peut-être que vous avez entendu parler de ça, des cultes des guérisons qui se font dans certaines églises. Mais là, ce sont des anciens qui appellent les malades à eux. C'est tout à fait le contraire de ce qui est en train de se passer ici. C'est les malades qui font appel aux anciens de venir chez eux. Ça se fait en privé. Et que doivent faire les anciens une fois sur place? Ils doivent prier pour le malade en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Nous ne savons pas trop pourquoi il faut oindre d'huile. Sans doute, il s'agit d'un acte symbolique. Les gens me demandent toujours, mais quelle huile est-ce qu'il faut choisir au supermarché? Est-ce que l'huile d'olive? On ne sait pas. Où est-ce qu'il faut le mettre? Sur la blessure? Sur la tête? On ne sait pas. Mais ça, c'est des détails. Et c'est important, c'est que ça soit au nom du Seigneur. C'est un acte symbolique qui invoque le Seigneur pour agir en puissance, pour guérir la personne. Et les anciens doivent prier avec foi, car, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. Il est important à ce stade de remarquer que l'efficacité de la prière ne dépend pas de la foi du malade, mais il s'agit de la foi des anciens ici. On entend parfois des témoignages de personnes touchées par la maladie et d'autres chrétiens, c'est terrible, qui leur font douter de la véracité de leur foi en disant « Si seulement tu avais suffisamment de foi, tu ne serais plus malade. » Loin de nous de tels propos. Ce n'est pas du tout ce que Jacques est en train de dire. La prière de la foi, ce sont des anciens qui doivent montrer la foi ici. Ce n'est jamais question d'avoir suffisamment de foi afin que le Seigneur puisse nous guérir. Ce genre de propos est cruel, car non seulement la personne doit supporter la maladie, mais elle doit aussi vivre en pensant que sa foi est inadéquate. Ici, ce sont des anciens qui expriment la prière de la foi, en croyant vraiment que Dieu peut guérir la personne si telle est la volonté de Dieu. Que fera Dieu? Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Ça semble très fort, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une promesse que Dieu va certainement guérir à chaque instant, toute personne? Mais force est de constater que même au temps du Nouveau Testament, au temps des apôtres, il y avait des gens qui n'étaient pas guéris. L'apôtre Paul lui-même a supplié le Seigneur pour qu'il enlève l'écharpe dans sa chair, et Dieu ne l'a pas fait, en lui faisant comprendre que sa grâce lui suffit. Timothée avait des problèmes à l'estomac, et qu'est-ce que Paul lui a suggéré? Est-ce que vous connaissez ce qu'il a suggéré? Boire un peu de vin pour aider avec son estomac. Donc là, il faut dire que la Bible n'est pas du tout contre le fait de prendre des médicaments ou suivre des traitements. J'espère que vous êtes bien convaincus de cela. Ailleurs dans le Nouveau Testament, on apprend que Paul a laissé son collègue Trophime malade, à Milet, pas de guérison. Et de toute façon, nous allons tous mourir un jour, et la plupart d'entre nous, d'une maladie ou d'une autre. À un moment donné, le Seigneur ne va pas choisir de nous guérir, mais plutôt nous faire entrer dans sa présence glorieuse, avec un corps glorifié, sans maladie, au-delà de la mort. Mais quand même, ce verset 15 semble dire que Dieu va utiliser la prière des anciens pour relever les malades. Pas toujours, mais selon sa volonté, sans plan, le Seigneur peut relever la personne et la guérir. Et donc, si on a dans l'assemblée des personnes qui sont gravement atteintes par la maladie, peut-être on devrait faire appel aux anciens. Et une autre question que le verset soulève est celle de la relation entre le péché et la maladie, à la fin du verset 15. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Mais la Bible est claire dans le livre de Job, si vous avez lu cela, que la maladie d'un individu n'est pas forcément liée à son péché. Autrement dit, on ne peut pas dire que quelqu'un est malade d'office parce qu'il a péché. Mais dans certains cas, la maladie peut être provoquée par le péché. Jacques dit que si c'est le cas, la personne doit confesser ses péchés à Dieu et ils lui seront pardonnés. Peut-être que le péché n'est pas lié à la maladie, mais le fait d'être alité par la maladie, de devoir cesser nos activités normales, donnera du temps pour réfléchir à notre vie, pour voir s'il y a des péchés que nous n'avons pas confessés à Dieu. Donc, en toutes circonstances, priez. Malade, appelez les anciens pour qu'ils prient. Au verset 16, priez les uns pour les autres. Lisons le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. On pourrait se demander, mais est-ce que vous confessez vos péchés aux autres? Tout d'abord, il faut admettre qu'on commet des péchés. Le péché, ce n'est pas juste manger trop de glace après le décès, c'est pas ça le péché. Non, le péché, c'est de se rebeller contre Dieu, désobéir à ses commandements, de vivre dans le monde que créé sans vouloir vivre pour Dieu. Et Jacques nous recommande de nous confesser aux autres, pas à un prêtre, mais aux autres chrétiens. De préférence, les personnes du même sexe que vous, sauf s'il s'agit de votre conjoint, pour éviter l'intimité spirituelle qui peut mener à l'intimité physique, sexuelle. Mais nous devrions être honnêtes avec les autres. Ne pas se confesser tout devant tout le monde, mais uniquement à quelques personnes de confiance. Et dans le but d'être guéri, dit Jacques ici. Peut-être s'agit-il de la guérison physique de nouveau, ou peut-être d'une guérison spirituelle afin d'être rétabli dans notre vie chrétienne. Est-ce qu'on a l'habitude de nous confesser, de confesser vos péchés à certaines personnes? De prier les uns pour les autres. Les groupes de quartier sont un cadre magnifique pour faire cela. Si vous venez en semaine, les études bibliques. S'il fallait répondre à la question, pourquoi est-ce que nous ne prions pas? Je pense qu'il y a, voilà, on a tous du mal à prier. Une des réponses serait parce qu'on ne pense pas que c'est efficace. On ne pense pas que ça va changer les choses. Mais Jacques nous dit que la prière agissante à la fin du verset 16 du juste a une grande efficacité. Et puis il nous donne l'exemple d'Élie, un homme ordinaire comme nous qui a prié qu'il ne pleuve plus, parce que ça c'était le jugement que Dieu a prononcé contre le roi d'Israël qui était méchant. Et Jacques a prié, un homme ordinaire comme nous, il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Il a prié de nouveau, il a plu et est revenu. Est-ce que nous pensons que la prière peut changer des choses? Est-ce que nous pensons que nous sommes différents d'Élie? C'est un grand défi pour nous, je pense. Soyons fervents dans la prière. Que nous souffrions, que nous soyons joyeux, que nous soyons malades, comme les gens ici qui toussent, que nous ayons péché, prions. Et nous arrivons à la dernière exhortation de Jacques dans la lettre. C'est comme une conclusion à tout ce qu'il a dit jusque-là. Versets 19 et 20, il dit « Ne restons pas inactifs vis-à-vis de ceux qui s'éloignent de la foi. » Ne restons pas inactifs vis-à-vis de ceux qui s'éloignent de la foi. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que la foi chrétienne, c'est une affaire entre nous et Dieu et nous, et personne d'autre. Et dans un sens, c'est vrai. Pour être sauvé par Dieu, il faut croire personnellement en Jésus. Et peut-être que vous êtes ici, vous n'avez pas encore fait ce pas. Vous n'avez pas placé votre confiance en Jésus pour vous sauver de la mort éternelle. Il faut le faire en tant qu'individu. Mais si on a fait ce pas, une fois sauvé, nous formons une famille. Et dans la famille, nous avons des responsabilités envers nos frères et sœurs. Lorsque j'étais petit, je rapportais des bêtises de mes frères et sœurs à mes parents. Je ne sais pas si vous faites ça, les enfants, si cela vous arrive de dire « Oh, mon frère, il a fait ça. Regarde ce que mon frère a fait. » Et ma maman avait l'habitude de dire « Es-tu le gardien de ton frère ?» C'est-à-dire, voilà, tu, c'est pas ton histoire, ça. Toi, tu dois t'occuper de tes oignons. Et voilà, tu dois nous laisser nous occuper de ton frère. Mais le plus que j'y réfléchis concernant la vie chrétienne, la réponse à cette question, suis-je le gardien de mon frère à l'église? Je pense que la réponse est oui. Nous sommes les gardiens, les uns des autres. Nous ne pouvons pas juste nous occuper de nos oignons à l'église. Parce que le verset 19 et 20 nous donne des enjeux éternels. Voyons le verset 19 et 20. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Il s'agit de quelqu'un qui s'égare de la vérité. En Jacques, on a vu que la vérité, ce n'est pas seulement ce que nous croyons intellectuellement, c'est aussi notre pratique, notre vécu. Donc si à la fois dans la vie de quelqu'un, il est en train de s'égarer de ce que la parole dit, en train de vivre dans le concubinage, d'autres choses pareilles, tricher sur ses impôts. On doit oser parler à la personne en voulant le ramener à la foi. Ou si quelqu'un commence à nier les choses que la Bible dit clairement, on doit avec amour aller vers la personne pour lui dire « Tiens, est-ce que tu as pensé à ceci, à cela? Pourquoi est-ce que tu penses cela ?» Ou quelqu'un qui n'a pas été à l'église pendant longtemps. Ça, c'est un bon signe de quelqu'un qui s'éloigne parfois de la foi. Est-ce qu'on a comme réflexe de vouloir contacter de telles personnes pour dire, tiens, on ne s'est pas vu à l'église depuis longtemps. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je peux prier pour toi? Il faut être conscient que nous avons une responsabilité envers les autres chrétiens de l'église. Il faut que l'on soit prêt à parler à ceux qui s'égarent. Et ça veut dire aussi qu'il faut être prêt à écouter de tels avertissements de la part des autres. Et si jamais nous nous trouvons loin de la vérité, si quelqu'un vient nous trouver en disant « Mais tiens, est-ce que tu as pensé à cette partie de ta vie ? Comment est-ce que nous allons réagir à cela ?» Je me rappelle toujours d'une conversation avec un des responsables à notre église en Angleterre. On lui a demandé qui c'était qui a persévéré dans la foi une fois les études terminées. Qui a persévéré dans la durée? Vous savez sa réponse? Ceux qui ont des amis chrétiens. Ceux qui ont des amis chrétiens. C'est-à-dire ceux qui connaissent des chrétiens, qui ont des amis, amitiés profondes avec les chrétiens, les gens qui peuvent les reprendre si jamais ils sont en train de s'éloigner de la vérité. Les amis les ramènent à la foi. Si nous avons des amis chrétiens, il y a des gens dans notre vie qui pourront nous ramener à la vérité. Et donc, nous devons cultiver des amitiés au sein de l'Assemblée. Cela veut dire qu'il faut se voir plus souvent que le dimanche matin. Il ne faut pas rester inactif vis-à-vis de ceux qui s'éloignent de la foi. Même s'ils ne vont pas forcément apprécier notre démarche au premier abord, s'ils appartiennent véritablement à Dieu, ils vont revenir à lui. Et donc, est-ce que nous connaissons des gens Peut-être, on pense, peut-être je devrais leur parler avec amour, avec tact, dans la prière. Quelqu'un qui n'a pas été à l'église pendant longtemps. Quelqu'un qui vit dans le péché tout en s'appelant chrétien. Que Dieu nous donne le courage pour leur parler. Pour les ramener de leur voie. Parce que si on fait ça, leur âme sera sauvée de la mort éternelle. Et leurs péchés seront couverts. Nous voilà à la fin de la lettre. Les deux derniers versets ici résument bien la démarche de Jacques dans toute sa lettre, n'est-ce pas? Il nous appelle à revenir à la vérité. Si nous sommes conscients que nous sommes en train de vivre à moitié pour Dieu, à moitié pour le monde, il nous demande de revenir à la vérité pour que notre âme soit sauvée de la mort et nos péchés couverts. Revenons à Dieu, mettant notre foi en pratique et que le Seigneur soit glorifié par une vie vécue entièrement pour lui. Prions ensemble. Notre Père, si nous sommes honnêtes, transparents devant toi, nous devons reconnaître que nous avons péché, que nous avons agi d'une manière qui ne te plaît pas. Et nous voulons revenir à toi, revenir à la vérité en te demandant pardon. Merci parce que si nous te demandons pardon, tu couvres nos péchés, tu nous sauves de la mort. Nous te prions que nous ne puissions pas vivre avec un pied dans le monde, un pied seulement dans le royaume de Dieu. Mais que nous puissions vivre entièrement pour toi tout au long de notre vie. Que nous puissions cultiver des amitiés avec d'autres chrétiens pour pouvoir nous aider mutuellement dans la foi. Que nous puissions prier à tout moment, que nos paroles aient de l'intégrité et que notre vie t'honore jusqu'au moment où nous te verrons face à face. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.